I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui s'offre là tout de suite une petite digression hors format pour embarquer avec joie dans la folle aventure des Nice Guys de Shane Black, notre gros coup de cœur de ce printemps de cinéma. Un pur bonheur dont nous allons parler avec un trio de détectives de choc, Charlie Roux, salut Charlie.
Bonjour.
Yannick Davant, salut Yannick.
Salut.
Et Stéphane Malsetti, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné spécial Nice Guys et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
The Nice Guy, c'est la rencontre au sommet entre deux charmants messieurs. Russell Crowe d'un côté, alias Jackson Healy, un redresseur de tort payé cash pour régler les problèmes des uns et des autres à coups de tatane lourdement distribués. Et Ryan Gosling de l'autre, dans le rôle de Holland Marsh, un privé qui d'abord fera les frais de l'imparable technique de Healy lorsqu'il s'agit de casser des bras, notamment, avant de l'aider à retrouver une jeune fille mystérieusement disparue, le tout sous fond de conspiration automobile où se mêle le savoureux monde du porno des années 70, car oui, tout ça se passe à Los Angeles en 1977.
Give me your left arm.
No!
Yeah, come on.
No!
When you're talking to your doctor,
no!
Tell him you have a spiral fracture.
No!
Deep breath.
No!
I'm not in the yellow pages. If you got trouble with someone, you might ask around for me, Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter Amelia is in danger. Please, find her, protect her.
Et on l'a dit mais on le répète, derrière la caméra c'est le redoutable Shane Black, l'homme à qui on doit des petits bijoux comme Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, le meilleur des Marvel, ou encore le scénario d'une sacrée tripotée de films dont L'Arme Fatale, Last Action Hero ou Le Dernier Samaritain. Alors, c'est Nice Guys, on en pense quoi autour de la table, Charline?
Alors moi j'ai pas ri comme ça depuis Transporteur Héritage, mais pour d'autres raisons. Là c'est voulu.
On en avait parlé,
c'est
d'ailleurs.
C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien dialogué. C'est la meilleure scène d'ouverture de film que j'ai vue depuis 5-6 ans. L'intrigue est tenue de bout en bout, ce qui est souvent assez rare dans des films qui se veulent drôles. Et alors la grande force du film... Moi, je trouve que souvent, l'humour, au-delà des dialogues qui sont extrêmement ciselés, est vachement basé sur un comique de slapstick. Et en fait, généralement, dans ce genre d'humour, on arrive à savoir ce qui va se passer. Là, jamais, en fait. La surprise est de chaque instant, à chaque fois qu'il se prend une baigne, une baffe. Et le ridicule du personnage de Ryan Gosling est...
C'est parfait.
Absolument parfait. Et puis, il y a Russell Crowe.
voilà,
que je répéterai à peu près plusieurs fois pendant le voilà. Donc, vraiment, c'est très honnêtement, c'est ça rentre directement dans mon panthéon des films de l'année en fait.
Stéphane,
oh, pareil, un film de l'année, je pense pour l'instant. Oui, c'est alors le moi je serais pas tout à fait aussi dithyrambique sur Iron Man 3. J'ai des soucis avec le film, même si c'est effectivement peut-être le meilleur des Marvel à mes yeux. Shane Black oblige. Mais là, c'est du Shane Black à qui on laisse vraiment la possibilité de faire ce qu'il veut faire, ce qu'il sait faire.
Ce qui n'a pas été le cas sur Iron Man 3.
Ce qui n'a pas été le cas sur... Bah, je pense que de toute façon, tu as les impératifs obligatoires.
Bah déjà, il a raconté il n'y a pas longtemps qu'il voulait faire une méchante et pas un méchant, et que ça, on l'avait empêché. Enfin, qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas pu faire.
Il y a plein d'autres impératifs. Je veux dire, les subplots de Iron Man 3, tu n'as pas de trucs comme ça dans Nice Guys, tu n'as pas de trucs comme ça dans Kiss Kiss Bang Bang, ils s'en foutent ces trucs-là. C'est des espèces de passages obligatoires pour passer à la scène suivante, il s'en fout complètement et ça participe, je pense, c'est ce que disait Charline, ça participe à l'idée que tu ne sais pas en fait où tu vas débarquer. Et ce qui est très intéressant quand tu es un fan de Shane Black, en plus quand tu regardes ce film-là, c'est à quel point, bon, ça a toujours été plus ou moins le cas dans sa carrière, hein, je veux dire, depuis L'Arme Fatale, dans Le Dernier Samaritain, il cite L'Arme Fatale, explicitement, puisqu'à un moment donné, tu as la fille d'Alan Beck qui regarde L'Arme Fatale à la télé, et je pense que ça vient de lui, ce truc, tu as des dialogues qui recitent L'Arme Fatale, etc. etc. Et là, en fait, tu as exactement la même chose dans celui-là. par exemple, la scène qui est hilarante en plus hein, dans le film, dans Nice Guys, quand il prête la vitre en fait et qu'il se coupe,
oui.
C'est la scène de Last Action Hero où Schwarzenegger en fait arrive dans la réalité et pète la vitre. Il fait putain, ça fait mal. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Tout le film en fait est une autocitation permanente, tout en se réinventant totalement. Là-dedans et le truc moi que je trouve très touchant personnellement en tant que fan de Shane Black depuis 25 ans c'est non mais bah non mais parce que non mais
les effets sonores sont de Stéphane Wojcicki.
Non mais la raison pour laquelle je dis ça c'est parce que j'ai toujours aujourd'hui t'entends tout le monde dire ah le Shane Black oh pas terrible pour un Shane Black tu vois et t'as envie de dire mais vous saviez qui c'était Shane Black il y a 20 ans vous saviez qui c'était Shane Black quand le mec a disparu pendant 10 ans quand personne ne lui a filé de film à faire après Kiss Bang Bang et là tout le monde d'un seul coup tout le monde sait qui est Shane Black donc ça c'est toujours ça assez surprenant quoi
enfin ça mais, c'est la récup qui a systématiquement, tu sais.
Peut-être, mais bon, c'est
on découvre sur le tard les auteurs, c'est quand même... on fait mine, et puis voilà, quoi.
C'est quand même surprenant. Et encore une fois, à l'époque même d'Iron Man 3, c'était comme ça, alors que le type n'avait pas fait film depuis 8 ans. Ouais. Et le truc que je voulais dire, c'est que là où c'est touchant, c'est de le voir, en fait, faire à la base des vrais polars noirs, effectivement, avec un peu d'ironie dedans, un peu de déconstruction, et de pousser le truc de plus en plus jusqu'au bout, jusqu'à un point où t'as plus de figures, enfin, les figures, bon, t'as un peu ça avec Russell Crowe, c'est vrai, mais les figures mythologiques du privé, comme il les reconstruit dans L'Arme Fatale, avec Riggs, ou Alan Beck, ou même Gina Davis, hein, Gina Davis, c'est plus l'espion, mais Samuel Jackson, le voir pousser ça à fond, et en fait, les traiter... sur le mode de totalement humoristique et en même temps faire revenir leur héroïsme par moment comme ça c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus efficace et en même temps je trouve ça extrêmement touchant parce que t'as vraiment l'impression qu'il parle de lui à travers ces choses là en fait t'as l'impression qu'il est en train de se dire ok je reviens et maintenant j'ai cette chance de refaire carrière j'ai cette chance de revenir sur ces choses là et je suis pas forcément ce loser au début je suis pas le type qui ne sera jamais heureux comme c'est écrit sur son bras et qui à la fin en fait du film l'est parce que ça s'efface et parce qu'il a réussi à traverser tout ça quoi et donc c'est un film
sans faire exprès
sans faire exprès oui parce que ouais.
Ce que je veux dire par là, c'est juste par rapport à la notion d'héroïsme qui est quand même vraiment, pour le coup, quand on dit c'est de l'anti-arme fatale, ça l'est littéralement pendant tout le film. Moi, ça m'a vachement déstabilisé. J'en avais parlé avec Stéphane et je lui disais, moi je suis sorti, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que ne serait-ce que par la bande-annonce qu'ils vendaient, ne serait-ce que par rapport à tout ça, j'étais là, il va moderniser le buddy movie, mais justement, qu'est-ce que c'est un buddy movie ? C'est un film où il y a un vrai parcours, une vraie évolution des personnages. Et tout le film, et moi c'est ça qui m'a fasciné, c'est-à-dire qu'au début j'étais déstabilisé, mais au point de même, j'allais dire de m'énerver moi-même, mais si tu veux, de trépigner sur mon siège en me disant, mais attends, je comprends plus.
Où est-ce
c'est-à-dire,
que ça va, quoi ?
C'est-à-dire, ça sort de mes... Ça sortait de ma zone de confort intellectuel sur le buddy movie. Et y a plusieurs moments comme ça dans le film où tu dis, ah bah, il y a la scène qui arrive, cette scène va faire que le personnage va évoluer dans telle direction et que le dernier acte va être comme ça. Et à chaque fois, ça te la met à l'envers. Alors, la notion d'héroïsme, moi je la vois même pas sur Russell Crowe, qui est probablement le personnage qui a l'évolution la plus... subtil, parce que la seule chose qu'on te dit fondamentalement sur ce perso, c'est de dire à un moment donné, il a besoin d'être utile, il le dit lui-même, j'aimerais bien être utile. Il l'est, mais il est pas.
Non, mais en fait, c'est par rapport à sa relation avec la gamine, oui. Parce que comme la gamine, pour moi, est le cœur du film, en fait.
Ah bah oui,
en fait,
c'est vraiment le héros. Le héros, c'est la gamine.
Gamine absolument géniale. Hein, elle est quand même assez rare pour être.
Elle est formidable, et puis t'as pas, dans ce genre de film-là, t'as pas de personne. Il y a que Shane Black, encore une fois, qui arrive à faire des gamins. Je veux dire, mais pas que elle, hein, le gamin qui veut montrer sa bite, là. C'est juste
hallucinant. C'est hallucinant, cette scène. Sans rentrer dans la narration, parce qu'on va pas rentrer, on va pas raconter tout le film, même si je trouve l'évolution pour le coup de Ryan Gosling absolument génial dans le film, tu le vois pas venir, et puis c'est d'une subtilité, c'est-à-dire que d'habitude un personnage qui va d'un point A au point B, on l'assène, tu vois, là on te glisse sur sa main, je suis pas heureux, et puis tu vois pas venir le truc, d'autant que c'est clairement un Pierre Richard, enfin c'est un Pierre Richard qui tout d'un coup évolue à la fin, mais le coup des gamins qui est assez hallucinant, c'est que le film, moi je trouve qu'il a plein de niveaux de lecture. Et je vais pas, tu vois, de manière vindicative dire « je pense que le film veut dire ça », c'est pas ça. Chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est tellement à contre-courant de tout ce qu'on fait, autant en écriture qu'en mise en scène, cette façon d'exposer cet univers. On ne voit plus ça aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'étonne pas d'entendre des premiers retours sur le film de gens qui, entre guillemets, s'ennuient. Ils trouvent que l'humour est marrant, ils trouvent ça marrant, mais ils trouvent ça long à se mettre en place. Et
le film est pas très long, pour le coup.
Et pourtant, le film est pas très long. Ouais. Oui, il fait deux heures, mais je veux dire, il pose son univers, et c'est par tous ces éléments qu'il pose et qui ont l'air un petit peu même parfois anodins au départ, que ça fonctionne sur le final. Mais il y a quand même un truc sur les gamins, le cinéma d'aujourd'hui, le film d'action, la violence, quand même Russell Crowe qui s'apprête à buter le bad guy et qui lui dit t'as été sauvé par PG-13 littéralement, ouais. Quoi, tu vois. Et il y a pas que le regard touchant, et je suis complètement d'accord, il y a le regard touchant du mec qui dit bon ben maintenant j'y suis arrivé, j'y vais, je m'amuse, je peux aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire, et il ose des trucs que personne n'ose dans son film,
mais
il y a
notamment aussi... sur les gamins, hein, d'ailleurs,
oui,
hein,
mais il y a aussi un petit truc vachard. Moi je l'ai senti, c'est peut-être moi, hein, mais j'ai senti un petit truc vachard au fond, tu sais, l'association Joel Silver, Shane Black tout d'un coup sur un buddy movie. Ça suscite des attentes d'une génération, aucune d'une autre, et ça pose des questions sur comment ce genre a évolué au fil des ans. Et il y a plein de choses intéressantes dedans là-dessus.
Mais moi, le truc sur les gamins, c'est surtout que t'as le film qui s'ouvre au début, et t'as le personnage de Ryan Gosling qui dit oh, « mais de toute façon, les gamins, aujourd'hui, ils savent tout. Ouais. » Ils savent tout, et en gros, et le truc qui est génial, c'est pour te démontrer ça, c'est qu'ils te parlent, ils te font cette espèce de film pour scolaire, là, ouais. où t'as la serviette. Alors lui, il a une serviette bleue, elle a une serviette blanche, et lui, il a une serviette gay, et là, t'as tous les gosses qui sont morts derrière parce qu'ils savent ce que ça veut dire, quoi. Sauf que c'est pas ce qui est l'intention de la vidéo en question, quoi. Voilà. Et le fait que tous ces gamins sachent toutes ces choses-là, et que la gamine quand même à la fin qui est pareil, hein, elle sait toutes ces choses-là, elle a conscience de tout ça, elle a pas de problème avec
ça. C'est la seule qui est sage, quoi.
Voilà, elle lui dit quand même. Non, tu peux pas tuer ce mec-là. Ouais. Tu peux pas le tuer. Et le truc, c'est que Russell Crowe, en fait, il fait OK, effectivement. C'est pas seulement le truc, c'est pas que du PG-13 pour moi, c'est vraiment un vrai truc humain, en fait. C'est-à-dire que.
Ah oui, ça c'est sûr, hein. Je dis, il y a d'autres niveaux lecture, mais le premier, c'est celui-là, c'est clair.
Mais il y a un petit côté, moi je trouve un petit côté Les Confidential en version trash et foutraque, quoi. C'est-à-dire que Russell Crowe reprend un peu cette espèce de figure du mec qui a l'air d'être pas sympa, qui est très torturé, mais qui finalement a bon fond. Et puis surtout son employeur de milieu de film, je sais pas si on a le droit de dire, mais il y a quand même un côté LA Confidential, quoi. Kim Basinger, il y a un truc très...
Les références de Shane Black, elles sont antérieures à LA Confidential. C'est oui, toute bien une sûr. Tradition mais là, du private.
Ça rejoue un peu dessus,
dans laquelle,
moi, je trouve.
Dans laquelle s'inscrit
de...
LA Confidential. Bah,
évidemment, voilà. Oui, mais je veux dire, c'est pas son modèle précisément.
Oui, mais c'est même, j'y avais pas pensé. En fait,
il y a ce truc sur ces personnages. Mais
je
te dis, Stéphane, qui est très juste. Mais y a, moi, voilà, il y a aussi cette. C'est pour ça que moi, je trouve que le film est génialissime. C'est que, les gags ou les scènes de comédie, elles ne sont jamais vaines. C'est-à-dire que. Elles ne sont pas là juste pour amuser la galerie. Elles sont pas là juste pour faire une espèce de scène qui suffirait à elle-même et on passe à la suivante. On a fait. Il y a un sens systématiquement. Quand on a ce fameux plan, et là je grille rien parce que tout le monde l'a vu dans la bande-annonce Rated R, là, quand on le voit tomber dans la piscine, oui, et que t'en as un qui s'éclate et l'autre qui s'éclate pas, et que deux minutes avant on te fait la thématique sur tout est une question de point de vue. Il y a vraiment tout est lié. C'est ça, moi c'est un film, je donne pas de réponse parce que je l'ai vu qu'une fois, j'ai qu'une envie, c'est le revoir, mais je suis sûr qu'en creusant, on découvre des dialogues, des trucs qui vont rebondir, qui sont vraiment assez, assez brillants.
Munich, c'est tout ce que j'ai à vous dire, Munich, allez voir et vous comprendrez, Munich.
Une des meilleures dialogues dans l'ascenseur.
Et tu sais, comment on appelle ça déjà, les mecs qui ont pas de... Ah ouais, un Munich.
Qui ont qu'une seule testicule, un
Munich. Tu t'en rappelles pas.
Yannick
n'aime pas Shane Black, ça y est. Il faut que ça soit dit maintenant ici.
Justement, Stéphane, puisque t'en parles, j'aimerais bien qu'on dise quand même un mot de la carrière en général de Shane Black. Tu disais toi-même que tout le monde a l'air de le connaître maintenant, c'est pas forcément évident.
Non, c'est pas évident. Le truc, c'est que déjà, c'est un scénariste à la base. Il a commencé, donc il a vendu son premier scénar en 86 avec L'Arme Fatale. Il avait 21 ans, donc il a cartonné très jeune. Il a fait partie, en fait, de ces scénaristes stars à Hollywood, et je dis bien à Hollywood parce que le grand public ne connaissait pas son nom, même si éventuellement on pouvait vendre Le Dernier Samaritain par les auteurs de L'Arme Fatale, par les créateurs de L'Arme Fatale. En fait, c'est un scénariste qui a disparu dans les années 90 parce que justement il a été victime de cette de cette starification. C'est-à-dire que à l'orée des années 90, à Hollywood, il y avait un petit jeu en fait que les scénaristes aimaient bien pratiquer, c'était de savoir qui allait toucher le plus de pognon en fait pour une idée. Et les deux scénaristes stars sur ce terrain-là, c'était Shane Black et Joe Esteras qui a aussi disparu, hein, qui était le scénariste de Basic Instinct et qui vendait des pitchs écrits sur une nappe de restaurant pour 1 million. Mais voilà, ils vendaient des trucs. Et Joe Esteras, personnellement, si on devait vraiment, il y a pas de raison de comparer, mais si on devait comparer Joe Esteras, c'est quelqu'un qui est un peu de la fumisterie, alors que Shane Black, c'est de l'orfèvrerie. Il y a vraiment un travail de scénariste derrière, vraiment un truc. C'est un mec qui passe 4, 5, 6 mois à écrire et réécrire et réécrire ses scénars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu deux bides à son actif qui l'ont un peu plombé, qui sont Last Action Hero et surtout Au revoir à jamais, qu'il avait vendu, je crois, le record, c'était 4 millions de dollars le script. Et le film en a rapporté 70, je crois, dans le monde entier. Mmh. Et du coup, il a décidé lui-même de s'arrêter pendant un moment. Et quand il a voulu revenir justement à l'époque avec Kiss Kiss Bang Bang, avec d'autres projets,
en tant que réalisateur,
tout le monde lui a fermé les portes. Et apparemment, il raconte lui-même que personne ne savait même plus qui il était. À côté de ça, il a un peu la même aura que ses personnages, c'est-à-dire c'est un gros fêtard, un mec qui reconnaît avoir un passif dans la drogue, dans l'alcool et tout ça, qui s'est vachement perdu. Dans une vieille interview de Rafik, en fait, que Rafik avait fait à l'époque pour Impact.
Rafik Djoumi, notre camarade qui participe souvent à nos films.
Shane Black racontait que s'il écrivait des scénarios avec des mecs qui se foutent un flingue dans la bouche pour se tirer une balle, comme Mel Gibson au début de l'Impatal, c'est parce qu'il connaît le sentiment. Donc bon, on parle quand même d'un mec qui est assez torturé, quoi. Et donc c'est un type qui a disparu. En même temps, il a tout fait pour essayer de revenir. Et la seule personne qui l'a repêché au milieu des années 2000, c'est Joel Silver qui l'a découvert en 86, à l'époque où il lui a acheté le scénar de L'Arme Fatale, qui était la hot shit, comme on dit, tu vois, voilà, comme disent les jeunes, tu vois, de l'époque, quoi. Et ils sont revenus modestement. Et quand tu regardes Kissing Bang, c'est un film modeste, hein, c'est un tout petit film. Qui est devenu un film culte, qui n'a même pas été distribué à l'époque, quasiment. Hein,
c'est assez drôle parce que du coup, les deux comédiens qui choisis pour le film vont très bien avec cet état d'esprit. C'était Robert Downey Jr. à l'époque, c'est pas encore redevenu. Val Kilmer, il est plutôt sur la pente descendante. Donc il a des personnages un peu trash. Et là, on voit du coup avec ce film-là que la force de frappe est différente. C'est-à-dire qu'il a deux acteurs qui sont pour le coup installés, bankable. Un poil plus propre, entre guillemets.
Pour Nice Guys, c'est-à-dire.
Pour Nice Guys. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai des souvenirs sur Kiss Kiss Bang Bang, on reprochait au film d'être un peu foutraque. C'est vrai que ça partait dans tous les sens, et ça pêchait par excès. Là, je trouve que sur The Nice Guys, justement, c'est très bizarre de le dire comme ça, mais une forme d'épure, même si ça reste très, très drôle.
Les deux restent des formes d'exercice de style. Oui, bien sûr. Que Kiss Kiss Bang Bang.
Il y avait un truc plus foutraque. C'était moins.
C'est surtout qu'est-ce qui se manque, en fait, il y a un côté je me fous ouvertement de la gueule et ouvertement référentiel sur les autres. Je dirais, vous inquiétez pas, on va pas finir le film comme Le Seigneur des Anneaux avec les 35 minutes de les 17 fins différentes, ou alors je sais plus qui cite, il se fout de la gueule de je sais plus quelle autre actrice qui était en rehab à ce moment-là,
désintoxication,
tu vois, voilà. Donc en fait, t'as plein de trucs comme ça, effectivement, qui rendent le truc un peu bordélique. Et puis t'as le côté improvisé de Robert Downey Jr. qui est clairement voilà. Mais le truc, c'est que justement, c'est tout le, j'ai envie de dire le génie, mais le truc, c'est qu'un mec comme Shane Black, c'est une telle personnalité que il a recréé en fait Robert Downey Jr. Je veux dire, quand tu regardes en 2005, Robert Downey Jr. c'était le second rôle dans Prémonition.
Et puis
il a créé Ryan Gosling dans celui-là, alors, clairement. Ouais.
Et le truc c'est que ouais, mais il y avait vraiment ce que je veux dire, quand l'avenir nous dira pour Ryan Gosling, mais là, la carrière de, enfin, je veux dire, quand
tu Gosling est toujours Iron une star Man aujourd'hui.
Oui, c'est quand pas tu regardes ça que Iron je Man, dis, ça me ça, je sais pas, moi ça me semble extrêmement difficile de voir Gosling maintenant dans ce qu'il faisait avant The Nice Guy.
C'est possible, mais le truc, c'est que ce que j'entendais parler avec Robert Downey Jr., c'est surtout que Iron Man, c'est un décalque du personnage alors pas en termes de personnalité pure, on va dire, mais en termes de fonctionnement, Robert Downey Jr., il est superbe dans Kiss Kiss Bang Bang, mais là, ça fait juste 10 ans qu'il fait la même chose. Mais c'est évident que c'est là-dedans qu'il a été remarqué pour qu'on aille le chercher pour Tony Stark, en fait. Donc voilà. Et le truc avec Shane Black, c'est qu'il a essayé de refaire un Arme Fatale, Mais Mel Gibson étant fidèle à Richard Donner et Joel Silver, Richard Donner étant en brouille à l'époque, en fait, à la fin des années 2000, le film a été mis de côté. Il a essayé de faire un thriller d'espionnage avec Mel Gibson, mais Mel Gibson n'était plus bankable au même moment. Et c'est Robert Downey Jr. qui est venu le repêcher justement pour Iron Man 3. Donc voilà. Et il y a effectivement le truc, c'est que tu parlais de L.A. Confidential, tout ça, mais le côté pulp, en fait, c'est un des trucs qu'il a toujours fait. Je veux dire, c'est ouvertement dit dans Kiss Kiss Bang Bang, puisque c'est la gamine qui lit que ça, des pulp, avec un acteur, enfin un personnage qui est devenu acteur, un écrivain de pulp qui est devenu acteur et qui est joué par Corbin Dansen dans Kiss Kiss Bang Bang. Bon, enfin, je veux dire, on va parvenir encore une fois sur Le Dernier Samaritain, sur toutes ces figures là, quoi. Et apparemment, c'est connu que chez lui, il a des murs entiers de pulp qui datent depuis son enfance.
Ça se retrouve complètement dans The Nice Guys, qui est une relecture du pulp à 100%.
Voilà. Et le truc, c'est que moi, en tout cas, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est ce mélange d'humanité, d'écriture en fait extrêmement verrouillée, précise, et au service en fait de créer des films effectivement inattendus, quoi. C'est-à-dire que, je veux dire, même quand tu regardes, on parle de l'humour et il est le meilleur en fait pour mettre en scène ses propres gags, ça c'est une évidence. Et il a toujours dit qu'il avait plus ou moins ce problème là avec les autres films. En fait, il disait ouais, mais c'est bien L'Arme fatale, ou c'est bien Le Dernier Samaritain, ou c'est bien Last Action Hero, ou c'est bien Au revoir jamais, mais c'est pas tout à fait, ça va pas aussi loin
que ce serait comme ça que j'ai voulu.
Et t'as plein de scènes, en fait, déjà, tu vois, par exemple les digressions comiques avec dans Nice Guys, t'as la même par exemple dans Au revoir jamais, quand t'as Sheena Davis qui fout Samuel Jackson par la porte, il lui dit ouais, tu me sers plus à rien, elle le jette. T'as Samuel Jackson qui se retrouve par terre, qui commence à s'allumer sa clope en étant allongé au sol, et elle fait le tour du pâté de maison et elle revient, elle fait allez, reviens. Et donc ça y était déjà, et le truc, c'est que le gag, il fonctionne beaucoup moins, on s'en rappelle beaucoup moins que dans un Nice Guys, tu vois, quand t'as encore une fois l'autre qui se pète la main parce que tout simplement c'est une petite digression comme ça où ça part, mais c'est pour te montrer le fonctionnement du personnage. Il le fait beaucoup mieux que les autres, quoi.
Ah, tout ça c'est complètement vrai, moi je suis complètement d'accord. Après, moi il y a un mot qu'on n'utilise pas, mais c'est l'intelligence. Je trouve que c'est un type hyper intelligent qui n'est pas simplement quelqu'un qui est un orfèvre de l'écriture de scénario. C'est que je pense même d'ailleurs que pour être un véritable orfèvre de l'écriture de scénario, il faut se poser la question de la condition humaine en règle générale, sinon de toute façon t'écriras des trucs complètement, voilà, t'écriras des trucs vains, et ce n'est jamais vain. C'est à dire que moi c'est pour ça que j'aime ce type. J'aime le côté sarcastique, j'aime le côté humain, j'aime tout ça, mais il y a un mec intelligent, c'est-à-dire un mec qui se pose des questions sur pas simplement les conventions, les codes d'un scénario à l'instant donné, qui se pose la question du monde, de la pensée du monde aujourd'hui. Je pense qu'aussi, d'ailleurs, une des raisons, entre guillemets, hein, peut-être symbolique, moins pratique, de son absence pendant un certain temps, c'était qu'à un certain temps, à l'avènement du politiquement incorrect, de tout ça aux États-Unis, symboliquement, Shane Black n'avait pas cette place. C'est quelqu'un qui gratte, c'est quelqu'un qui gratte sur des trucs qui font mal. Donc
il y a un vrai problème. Il a été tricard vraiment. Hein. C'est-à-dire, récemment, il a raconté une anecdote à la sortie de Au revoir à jamais, quand il a décidé de se mettre de côté. Donc à l'époque où il était considéré vraiment comme le paria, quoi. Ouais. Il a demandé en fait à être inscrit à l'Académie des Oscars pour pouvoir voter, faire partie de l'Académie. Et je crois que si tu as écrit deux films, c'est bon, normalement, voilà. Et en fait, les mecs l'ont snobé en lui envoyant une lettre en disant « Vous n'avez pas écrit assez de trucs. » Le mec, il avait écrit L'Arme fatale, il avait 5-6 films à son actif, et il a clairement compris qu'en fait, c'est le moment où il a compris qu'il était tricard à Hollywood. Mais dans l'absolu, en fait, justement, le fait qu'il ait été aussi... qu'il ait autant de succès en fait au début de sa carrière, et qu'aujourd'hui justement il ait dû se battre pour revenir, alors que normalement en fait il a quand même œuvré dans des genres qui sont pas des genres qui sont censés cartonner, enfin les polars, le polar noir, ça n'existait pas dans les années 80 à Hollywood, où c'était vraiment fait n'importe comment, c'était des tout petits trucs, où c'était parodié dans les Y a-t-il un flic, ou ce genre de choses. Et lui, en fait, il a musclé ça, il en a fait des actionneurs, il a fait même la norme des actionneurs des années 80, mais il n'aurait pas dû avoir tout ce succès-là. Donc, si on suit la logique des genres, Donc le voir revenir avec ces petits trucs-là, je pense que c'est aussi ce qui donne une énorme humanité dans ces films aujourd'hui, c'est qu'il a beaucoup mieux compris certaines choses et qu'il les aborde aussi avec beaucoup plus de subtilité qu'il pouvait le faire à une époque.
Il a grandi, c'est
l'enfant. Voilà.
Comme ses personnages. Le Nice Guy, c'est en ce moment au cinéma. Courez-y, c'est une petite merveille. N'hésitez pas à vous replonger aussi au passage dans la filmo de Shane Black, scénariste et réalisateur. Ça vaut toujours très largement le coup. Pour finir, comme toujours, on va prendre quelques minutes pour les recommandations de l'équipe, si possible, autour de l'univers de Shane Black, mais c'est pas obligé. Stéphane.
Alors,
tu avais une contre-proposition.
Ouais, c'est pas une proposition, c'est une contre-proposition pour voir qu'est-ce que, enfin, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, mais j'y ne crois pas une seconde. Il y a la bande-annonce là qui est tombée cette semaine là, comme t'as fait exprès, en même temps que la sortie de The Nice Guys, du reboot télé de L'Arme Fatale.
Oui, version série.
Voilà, avec donc je ne sais plus qui c'est qui remplace Mel Gibson et Damon Wayans Senior. Est-ce qu'il faut dire Senior maintenant? Est-ce qu'il y a Junior? Qui joue le rôle de autrefois tenu par Danny Glover. Bon, ce qui est assez drôle puisque c'est quand même un des personnages du Dernier Samaritain à la base, Damon Wayans. Donc c'est marrant de le voir là-dedans. Mais ça a l'air catastrophique et ça a l'air d'être le voilà comment les mecs n'ont pas du tout compris. C'est-à-dire bon, L'Arme Fatale, faut être honnête. Hein, après le 2, c'est commencé à vraiment partir en cacahuète. C'était devenu des comédies. Donc c'est vrai que moi, Mel Gibson qui bouffait des croquettes de chien, bon, c'était pas ce qui me faisait le plus voilà. Et on précise évidemment que Shane Black n'était plus du tout dans le coup, hein, à ce moment-là. Mais enfin là, ça te fait revoir L'Arme Fatale 3 et 4 d'un autre œil parce que ça a vraiment l'air cheap, quoi. Donc voilà. Donc c'est tu peux trouver la bande-annonce sur internet, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas une recommandation, c'est une contre-recommandation. en avance.
Ce n'est pas du Shane Black, exactement. Voilà. Charline.
J'ai été très sage sur le dossier Russell Crowe.
C'est vrai.
Je m'ai rattrapé dans les recours.
Je trouve que tu t'es bien maîtrisé.
Meilleur acteur de tous les temps.
Alors, l'échange.
Non, mais moi, je le trouve bon dans tous les films. Hein, donc, tu peux y aller, même les pires trucs, le western pourri, là, j'achète tout, je prends tout. Même Noé, je trouve que c'est merveilleux grâce à lui. Mais je vous conseillerais plutôt L.A. Confidential pour le coup, pour le retrouver dans cette figure tutélaire du gros dur au cœur tendre. Voilà, il est avec magnifique. Vous allez tous retomber amoureux de lui.
Voilà, toi, tu as revu Elle est Confidential cette semaine.
Bah, je me fais toutes les semaines. Voilà, exactement.
Yannick.
Alors que moi, j'avais strictement aucune idée de Rocco, comme d'habitude. Hein, donc, je suis allé sur IMDb juste pour voir les trucs qui pouvaient graviter autour de Shane Black. Et je vois, mais alors j'hallucine parce que je ne m'en rappelle absolument pas, qu'il a joué dans Robocop 3.
Ça doit être... Il a joué dans Predator aussi. Hein.
Oui, c'est parce que c'est son copain Fred Decker en fait.
Oui, voilà. Donc, mais il fait un caméo, j'imagine. Il a pas un rôle plus que ça.
Bah, il fait un caméo.
Donc voilà, regardez Robocop 3 et essayez de trouver Shane Black. Par contre, vous allez souffrir.
Et envoyez-nous.
C'est une purge, le film.
Envoyez-nous les captures d'écran, Charlie.
Et juste sinon, puisque vous parliez tout à l'heure de Au revoir et à jamais, si vous voulez voir la meilleure scène d'émincée de carottes. C'est dans ce film, qui est quand même une des scènes les plus ridicules qui ait jamais été écrite,
formidable.
Mais qui est hilarante.
Formidable.
Ok, bah ça fait beaucoup de choses à voir. Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Jules, à la technique, au studio d'Orangerie pour l'accueil. D'ici notre prochain épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site nosciné.com où vous attendent toutes nos anciennes émissions. Et il commence à y en avoir un sacré paquet, on n'est pas peu fiers. Laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir sur le réseau social de votre choix. On est facile à trouver, on s'appelle Nosciné à chaque fois. Et en attendant, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Jean Z, No Game, c'est votre émission hebdo sur les jeux vidéo qu'on aime.
J'adore les phrases dépassant, je pourrais les écouter pendant des heures.
Qu'on déteste.
C'est horrible, les personnes, moi j'ai l'impression que c'est un simulateur de con, quoi.
Ou les deux à la fois. No Game que vous pouvez retrouver sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. À la semaine prochaine.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.